Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la démographie. La population mondiale comptait 1 milliard d'habitants en 1800. En 2017, elle franchissait le seuil de 7,5 milliards. Elle devrait continuer à croître et pourrait atteindre près de 10 milliards en 2050. Vieillissement, urbanisation, migration, réchauffement climatique, comment faire vivre ensemble 10 milliards d'humains? Peut-on vraiment agir? La stabilisation est-elle envisageable à terme? La décroissance tout de suite ne serait-elle pas préférable? Sommes-nous trop nombreux? Autrement dit, la vraie question est-elle celle du nombre ou plutôt celle des modes de vie? Pour en discuter, nous invitons Gilles Pison, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et chercheur associé à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, rédacteur en chef de Population et Société et auteur d'un atlas de la population mondiale aux éditions Autrement. Bonjour.
Bonjour.
Et Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur d'une étude intitulée « Le défi démographique, mythes et réalités » publié par l'Institut Montaigne. Bonjour.
Bonjour.
Migration, ressources, climat, croissance, emploi, conflit, urbanisation, montée des populismes. Diriez-vous l'un et l'autre que la démographie est entrée au cœur de toutes les problématiques sociétales de notre temps? Pourquoi maintenant? Est-ce que nous avons trop longtemps sous-estimé ces questions? Gilles Pison.
Alors, en France, on s'intéresse à la démographie, à la population depuis très longtemps. C'est un peu une originalité française. Et dans les autres pays, s'étonne qu'on s'intéresse tant à l'évolution du taux de natalité, à l'espérance de vie. Voilà. Alors, c'est une vieille obsession française qui est liée à l'histoire démographique de la France. Mais les gouvernants dans toutes les régions du monde se sont toujours souciés de leur population. Et au XVIIe, XVIIIe siècle, par exemple, en Europe, il y avait des débats entre économistes de l'époque pour savoir si la population augmentait ou diminuait. Et c'était important parce que c'était un signe de bonne ou de mauvaise gouvernance. Un bon gouvernant, c'est celui dont la population augmentait. Voilà, donc vous voyez que ça fait longtemps qu'on s'intéresse au sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les défis environnementaux et concernant la planète, on se soucie du nombre des humains sur la planète et de la croissance démographique. Mais alors c'est un souci qui a diffusé dans toute la population, alors pendant longtemps c'était les élites, si vous voulez. Et ça date d'il y a une centaine d'années, quand a été révélé à la population qu'il y avait un phénomène qui se passait, c'était une croissance très rapide de l'humanité. Jusque-là, il n'y avait que quelques spécialistes qui avaient perçu ce phénomène, et c'est à peu près il y a 50 ans que ce phénomène a été révélé, et curieusement, à un moment où la croissance démographique mondiale commençait à diminuer. Donc c'est à ce moment-là qu'on a parlé, à tort, d'explosion démographique. Il n'y a pas eu d'explosion démographique, mais que ce sujet de la croissance démographique rapide de l'humanité est venu un petit peu dans l'ensemble du public.
Une prise de conscience, Bruno Tertrais, inhérente finalement, si on s'en tient à l'Europe, aux questions migratoires d'Europe orientale et centrale vers l'Europe occidentale, et puis les questions migratoires aujourd'hui.
Je crois que si on peut parler de prise de conscience ou de nouvelle prise de conscience de la question démographique en Europe, c'est parce que pour nous, Européens, justement, cette question démographique, les phénomènes démographiques sont au cœur de la plupart de nos préoccupations d'une manière ou d'une autre. Vous avez parlé de la question migratoire, bien sûr. Il y a aussi la question du vieillissement du continent européen. Bonne ou mauvaise nouvelle, on peut en discuter, mais en tout cas, c'est une réalité. Il y a, bien sûr, la question des ressources et de l'environnement, qui n'est pas une préoccupation européenne, mais qui est une préoccupation mondiale. Là encore, on verra si c'est justifié ou pas. Donc je crois que c'est bon, effectivement, de refaire le point, comme je l'ai fait dans cette note pour l'Institut Montaigne, comme M. Pison le fait presque tous les jours avec des travaux de référence, et comme vous le faites aujourd'hui, sur ces questions qui vont jusqu'à prendre en compte, bien sûr, les débats très nationaux, comme le débat sur les retraites. Je crois qu'il est bon de rappeler que la question démographique est au cœur de toutes nos problématiques sociétales et géopolitiques contemporaine.
Et source de beaucoup d'inquiétudes, on le verra, parce que c'est vrai que les chiffres de la population mondiale, ils sont assez affolants. Enfin, le sont-ils? D'ailleurs, c'est la question que je pose. En tout cas, selon l'ONU, la croissance démographique est aujourd'hui de 1,1% par an. Qu'est-ce que ça veut dire, Gilles Pison? On le verra. Alors, je le disais, 7,5 milliards de personnes en 2017, 8,5 milliards en 2030, 9,77 milliards en 2050 et peut-être être 11,18 en 2100. Qu'est-ce que ces chiffres vous inspirent? Ils sont faits de réalités très différentes. Régression démographique en Europe, explosion en Afrique, qui tarde à faire ce qu'on appelle la transition démographique. Qu'est-ce que ces chiffres que je viens de mentionner, Gilles Pison, vous inspirent?
Alors, je trouve que c'est utile de les replacer dans le cadre des évolutions de long terme. Vous l'avez rappelé en début d'émission, nous étions 1 milliard d'humains sur la planète en 1800. Nous sommes 7,5 fois plus aujourd'hui. Et les projections moyennes des Nations Unies annoncent autour de 10, 11, 12 milliards. On pourra discuter du chiffre. Hein. Ça veut dire qu'un reliquat de croissance de 50%. Ces projections annoncent aussi qu'à cet horizon, la population n'augmentera plus ou plus aussi rapidement. Donc, on est dans une période un peu unique de l'humanité où elle aura vu ses effectifs multipliés par 10, en gros, en 2-3 siècles. Ça n'était jamais arrivé auparavant et probablement que ça n'arrivera jamais à nouveau. Donc on est dans cette période de croissance rapide, mais on a fait le gros du chemin, si vous voulez. La population a été multipliée par 7,5 et là, il s'agit d'une augmentation de 50% pour arriver à ces 10, 11, 12, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus milliards. Donc, à la fois, c'est important, c'est un défi, mais ça n'a rien à voir avec la croissance passée, si vous voulez. Le gros de la croissance démographique mondiale est derrière nous. En termes de taux de croissance annuel de la population, vous avez rappelé le chiffre de l'ONU, un peu plus de 1% par an, faut savoir que c'est 2 fois moins qu'il y a 50 ans, quand le taux de croissance démographique mondiale a atteint un maximum de plus de 2% par an. C'était exactement il y a 50 ans. Donc, depuis 50 ans, la population mondiale a continué d'augmenter, mais à un rythme qui, lui, a décéléré et va probablement continuer de décélérer parce que, partout sur la planète, les familles adoptent un modèle de famille de petite taille. Donc là, on va pouvoir discuter. C'est pas à la même vitesse partout, mais globalement, les humains ont fait le choix d'avoir peu d'enfants et aussi de les élever, de leur assurer une vie meilleure que par le passé. Et donc, ce choix a pour conséquence qu'on va probablement vers une population mondiale alors un peu plus nombreuse qu'aujourd'hui, mais pas des dizaines, des centaines de milliards. Alors, il va falloir gérer cela, mais c'est l'avenir. Voilà.
Bruno Tertrais, l'exception dans tout ce que vient de décrire Gilles Pison, c'est évidemment l'Afrique.
Oui, il y a une exception africaine, au sens où c'est sur le continent africain que l'on trouve à peu près tous les pays qui n'ont pas achevé cette fameuse transition démographique dont nous parlions, qui est en gros le passage d'un modèle stable à un autre. Pour faire simple, autrement dit, lorsqu'un pays se développe, d'abord sa population augmente rapidement et puis ensuite elle se stabilise. Je simplifie évidemment les choses et M. Pison me corrigera en tant que de besoin, mais c'est vraiment sur le continent africain, notamment en Afrique subsaharienne, que l'on trouve tous les pays qui sont encore en croissance rapide, voire très rapide. Je pense notamment au Sahel, qui intéresse bien sûr les Européens, mais le Sahel compte parmi les records du monde de ce qu'on appelle l'indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire, en gros, le nombre d'enfants par femme. Voilà.
C'est 7 ou 7,5.
Dans certaines régions du Niger, effectivement, c'est plus de 7. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que l'Afrique sera toujours une exception. L'Afrique finira, très certainement, par rejoindre ce mouvement mondial de simultanément de développement économique et social et de réduction du taux de fécondité. Mais les faits sont là. Nous aurons une population africaine en croissance très rapide pendant plusieurs dizaines d'années.
Alors, Gilles Pison, qu'est-ce qui explique que cette transition démographique tarde tant en Afrique? Qu'est-ce qui manque à ce continent pour faire ce que l'Asie a fait en son temps? Est-ce qu'il y a, alors on sait la question de la coutume, c'est compliqué, mais est-ce qu'on peut parler d'un manque de volonté, à commencer par celle de certains chefs d'État?
Alors là aussi, c'est utile de resituer les évolutions d'aujourd'hui dans le temps un peu long. Si vous voulez, il y a 40 ans, on se posait les mêmes questions à propos de l'Asie et de l'Amérique latine que aujourd'hui à propos de l'Afrique. À l'époque, les femmes mettaient au monde 5-6 enfants en Asie, en Amérique latine. Et les projections démographiques annonçaient une multiplication de la population dans ces continents. On parlait pas tellement de l'Afrique parce qu'on la mettait aussi dans ce groupe des continents sous-développés. Et là, une des surprises, ça a été d'observer il y a 30-40 ans, grâce aux enquêtes, que la fécondité s'était mise à baisser et très rapidement en Asie et en Amérique latine. Plus rapidement qu'on avait imaginé. Du coup, les démographes ont révisé à la baisse leurs projections démographiques pour ces continents.
Alors, il y a eu des politiques très coercitives, on pense à la Chine.
Oui, mais c'est pas forcément ça le facteur dominant. C'est que le désir des familles a été d'avoir moins d'enfants. Il y a eu des politiques pour offrir des moyens de contraception pour permettre aux familles d'avoir moins d'enfants. Mais surtout, il y a eu un développement économique, il y a eu un développement de l'instruction, notamment chez les femmes. Et du coup, c'est allé en tout cas beaucoup plus vite que ce qu'on imaginait. Alors aujourd'hui, à propos de l'Afrique, qui est un petit peu dans la même situation, c'est une deuxième surprise parce qu'on pensait que le même phénomène se passerait en Afrique en tenant compte d'un retard de développement, mais à son tour, l'Afrique connaîtrait les mêmes évolutions rapides à la baisse de la fécondité. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Alors pourquoi ? C'est la question. D'abord, l'Afrique, notamment subsaharienne, se développe économiquement, mais relativement lentement, plus lentement que ce qu'on a observé il y a 30-40 ans en Amérique latine et en Asie. Notamment, la diffusion de l'instruction, notamment chez les femmes, est plus lente. Il faut savoir qu'en Amérique latine et en Asie, il y a 30-40 ans, les gouvernements ont fait des efforts énormes pour développer l'instruction. Et en Afrique, probablement qu'il n'y a pas les efforts équivalents. Et l'Afrique n'est pas encore au niveau de développement économique où étaient l'Asie et l'Amérique latine quand leurs taux de fécondité se sont mis à baisser très rapidement. Donc là, vous voyez, il y a des facteurs socio-économiques. Alors, on peut rajouter d'autres facteurs.
Le facteur culturel, Gilles Puison ?
Je n'aime pas avancer des facteurs dont on ne sait pas de quoi on parle. En gros, si vous voulez, sur toute la planète, les familles se comportent de la même façon. Elles ont toutes le souhait d'offrir le meilleur pour leurs enfants. Et cela, vous le retrouvez un peu dans tous les contextes. Et donc, on n'a pas besoin d'aller chercher des facteurs culturels, religieux, pour expliquer les variations aujourd'hui de la taille des familles d'un pays à l'autre. Si vous voulez, toute l'humanité est rentrée dans ce grand mouvement vers la famille de petite taille. L'Afrique, je ne pense pas qu'elle soit une exception, simplement, elle entre dans le mouvement plus tardivement et plus lentement.
Bruno Tartrain.
Oui, je crois qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'il y ait une spécificité africaine du point de vue culturel. Les facteurs culturels existent partout sur la planète. Ils ont eu un impact sur la démographie, sur la natalité, et bien sûr, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de sociétés, beaucoup de cultures. Voilà, en Afrique, ça ne joue pas plus et pas moins qu'ailleurs. Lorsque les facteurs culturels jouent, c'est peut-être davantage sur un autre phénomène qu'on connaît assez mal quand on n'étudie pas beaucoup ces sujets. C'est, par exemple, la préférence pour les garçons en Asie. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement prononcé, qui, dès lors que les familles ont accès aujourd'hui à des moyens de contrôle de la natalité, joue dans la manière dont les déséquilibres ou les équilibres entre garçons et filles se développent sur ce continent. C'est pas seulement asiatique, ça se passe aussi dans le Caucase, mais en Asie c'est très prononcé. Il y a des déséquilibres extrêmement forts, par exemple dans certaines régions de Chine, certaines régions d'Inde et dans une moindre mesure en Asie du Nord-Est. En gros, pour faire simple, il y a beaucoup de garçons et pas assez de filles. Vous savez, ça joue de manière pas très amusante parfois.
Tragique.
Et les avortements, 130-100, c'est exceptionnel.
Dans certains pays.
Peut-être dans certaines villes, mais 130-100, c'est exceptionnel. Non, c'est plutôt dès lors qu'on est à déjà 110, 115, c'est déjà un très très fort déséquilibre, ce qui pose des problèmes sociétaux tout à fait considérables dans certaines régions de Chine et d'Inde notamment. Ça, ce sont des facteurs culturels. Mais comme Gilles Puison, je pense qu'on ne peut pas dire qu'en Afrique, la question de la culture joue plus que sur d'autres continents, dès lors qu'il est question de la fécondité.
Alors, est-ce qu'il y a pour l'Afrique, Gilles Puison, on va terminer la première partie de l'émission sur ce continent peut-être, urgence à ce que la courbe démographique s'assouplisse
Alors, les évolutions sont déjà là. C'est-à-dire qu'il y a 40 ans, les femmes mettaient au monde 6 enfants et demi en moyenne chacune en Afrique.
En Afrique.
Comprise.
Aujourd'hui,
c'est 4 et demi. Il y a 20 ans, c'était 5 et demi. Donc, les évolutions sont là, à la baisse, mais la baisse de la fécondité, elle touche surtout, jusqu'ici, les milieux instruits, les villes. Mmh. Dans les campagnes, ça évolue moins vite. Et encore une fois, c'est pas parce que les familles à la campagne refuseraient la contraception. Beaucoup de femmes, y compris analphabètes, souhaiteraient espacer leur naissance, même si elles n'en sont pas encore à la contraception d'arrêt. Il n'y a pas toujours les services qui sont là. Et l'urgence, c'est donc d'assurer un développement économique de l'Afrique, parce qu'on sait bien que développement économique et puis changement démographique vont ensemble. Et ça veut dire mettre plus d'efforts dans le développement de l'instruction. C'est un défi énorme, vu la masse d'enfants, de jeunes dans ces pays, mais les efforts ne sont pas assez importants. Favoriser aussi le développement économique. Vous avez plein de jeunes maintenant qui sont formés, qui sont allés à l'école, qui ont des diplômes et qui sont sans emploi. Donc ça ne profite pas ou pas suffisamment au développement économique de l'Afrique.
Quelques mots sur, et ce sera ma dernière question pour cette partie d'émission, le lien entre poussée démographique en Afrique, Bruno Tertrais, et les flux migratoires, ils sont réels ces liens ou il faut dissocier l'un de l'autre?
Les liens sont réels, mais ce ne sont pas des liens mécaniques. Il n'y a rien de plus insupportable que d'entendre des gens qui font des raisonnements totalement mathématiques sur, vous avez déjà entendu cette phrase j'imagine, il y aura X milliards d'habitants en Afrique en 2050, si seulement 1% de la population émigrait, ça voudrait dire X centaines de millions sur nos rivales. Ça n'est pas de cette manière que la question migratoire fonctionne. Il faut quand même rappeler que les Africains émigrent relativement peu, que lorsqu'ils émigrent, c'est plutôt sur leur propre continent, et que le taux de migration extra-continentale africaine est plutôt assez faible. Quand on parle des je vois tel ou tel commentateur parler d'un 1% de la population, pas du tout. On en est plutôt à 0,1% par an, quelque chose comme ça. Je n'ai plus les chiffres exacts en tête. Mais la réalité, c'est qu'il y a effectivement, on peut appeler ça une pression, on peut appeler ça une tendance, il y a dans tous les cas de figure effectivement une augmentation de la migration africaine vers les pays plus développés, pas seulement l'Europe, mais aussi le Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'Africains qui partent travailler dans le Golfe pour quelques années et qui reviennent. La migration aussi vers les États-Unis et le Canada, qui sont peut-être pour certains Africains plus attractifs que l'Europe, mais il reste tout de même, je ne voudrais pas nier l'ampleur de la question, il y a une forte pression migratoire de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe. Il y a un mouvement de fond. Ça ne sera pas le type de migration auquel on a assisté à propos de pays en guerre comme la Syrie, l'Irak ou l'Afghanistan. Mais cette espèce de bruit de fond migratoire, je ne sais pas comment est-ce qu'il faut l'appeler, de l'Afrique subsaharienne vers l'Europe est une réalité. Une réalité qui va plutôt monter, gagner en importance que diminuer. Ça ne sera pas nécessairement une tragédie, ça ne sera pas un exode, parfois les métaphores bibliques sont un peu excessives, mais il y a une réalité, d'autant plus qu'il y a, on en a beaucoup parlé, y compris dans cette émission, maintenant un marché de la migration, quasiment des passeurs qui sont constitués, des réseaux de passeurs constitués quasiment en agence de migration. Voilà, tout ceci est installé dans la durée, donc je ne veux pas nier l'importance de cette question.
Gilles Pison, quelques mots sur ce que vient de dire
Oui, puis il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les migrations clandestines. Il y a aussi tous les flux de migrants, notamment de gens instruits avec des diplômes. Et quand on examine la mobilité africaine alors vers l'Europe ou les autres continents, elle ne déroge pas aux règles que l'on a observées pour les migrations des autres continents. Donc il n'y a pas une exception là aussi de l'Afrique pour ce qui est des migrations. Elles obéissent aux mêmes règles et vous les avez rappelés, il y en a une, c'est que, en général, dans les pays très pauvres, on émigre très peu. Pour l'Afrique, le gros des migrations en dehors du pays, ça se fait à l'intérieur du continent. Et donc, les migrations sont pour partie des migrations de gens qui ont des diplômes, qui ont une instruction et qui ont des moyens pour effectuer une migration, il faut avoir une ressource. Donc, ce n'est pas les plus pauvres qui vont envahir l'Europe ou l'Amérique.
On poursuivra. Dans la deuxième partie de l'émission géopolitique, nous retrouvons nos invités Gilles Pison et Bruno Tertrais après le journal.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la démographie mondiale, vieillissement, urbanisation, migration, réchauffement climatique, comment faire vivre ensemble 10 milliards d'humains. Nous retrouvons nos invités, Gilles Pison, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et chercheur associé à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, rédacteur en chef de Population et Société et auteur d'un atlas de la population mondiale paru aux éditions Autrement, et Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur d'une étude intitulée « Le défi démographique, mythes et réalités » publié par l'Institut Montaigne. On évoquait à la fin de la première partie de l'émission le lien possible ou non entre poussée démographique et flux migratoires. Gilles Pison, vous rappeliez que les pays très pauvres n'émigraient pas et on a relativisé tout cela. Bruno Tertrais.
Oui, c'était juste pour rappeler quelque chose qui n'est pas encore très bien connu. On dit parfois pour résoudre entre guillemets le problème de la natalité soi-disant excessive sur un continent tel que l'Afrique, il faut que ces pays se développent. Pour qu'on ait moins de migration, il faut que ces pays se développent. Sauf que c'est exactement le contraire, à savoir que c'est parce que ces pays sont justement entrés dans une phase de développement qui conduit à l'augmentation de la richesse individuelle que une partie de leur population émigre. Autrement dit, quand on est très pauvre, on n'émigre pas. Quand on commence à avoir un revenu disponible individuel plus élevé, eh bien là, on a la possibilité d'émigrer. Alors évidemment, c'est un phénomène transitoire. On a vu ça dans à peu près toutes les régions du monde. Dès lors que le développement atteindra un certain stade, évidemment, ces populations migreront moins. Mais l'idée de dire que le développement, c'est la solution pour que ces populations n'émigrent plus, c'est totalement faux. Il y a de très bonnes raisons de faire de l'aide au développement, mais qui ne sont pas celles-là.
Alors, l'aide au développement n'est pas un outil de frein à l'immigration. Alors, un commentaire rapide, Gilles Pison, sur la France qui a décidé d'accroître l'aide au développement.
Ah ben, on peut que se réjouir, si c'est de la vraie aide au développement, parce que pour beaucoup, c'est des fonds qui nous reviennent parce que ces pays nous achètent nos produits et tout. Mais on ne peut que se réjouir que cette aide augmente parce que la France n'est pas bien placée par rapport à d'autres pays européens. Dans cette aide. Voilà.
Alors, vous évoquez les questions d'éducation. Il y a un autre élément. Et on terminera sur l'Afrique avec ça, c'est l'absence d'électricité dans certaines régions. Je pense au Sahel notamment, où effectivement les jeunes immigrent dans des proportions absolument impressionnantes parce que le développement n'est pas là.
Et puis les emplois sont pas là, alors que de plus en plus de jeunes en Afrique sont allés à l'école, ont des diplômes. Et un des défis, c'est de trouver des emplois sur place. Mmh. C'est vrai que dès le moment qu'il n'y en a pas, il y a ce souhait d'aller ailleurs.
Alors, il y a les pays inquiets d'une forte démographie, des continents, l'Afrique, ceux qui sont inquiets du contraire, avec une faible démographie, voire une démographie en régression. C'est le cas de l'Europe orientale et centrale, qui se distingue par l'exode qu'elle subit, souvent celui de la frange la plus jeune, la plus instruite, la plus entreprenante. Émigration qui dépasse, il faut le dire, celle de l'Afrique en proportion de la population. L'Europe, une zone en déclin, quels sont les défis pour le continent européen?
Moi, je pense qu'il y a, un défi majeur que l'on connaît assez peu en France, c'est l'effondrement démographique de l'Europe centrale et orientale. Quand je travaillais sur cette note que je faisais pour l'Institut Montaigne, il y a un tableau qui m'a sauté à la figure dans les statistiques de l'ONU. C'est quand on regardait la liste des 10-12 pays qui sont appelés, selon les projections moyennes de l'ONU, à perdre plus de 15% de leur population d'ici 2050. C'est énorme, hein, plus de 15%, c'est phénoménal. Il y en a 10 qui sont en Europe centrale et orientale. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas toujours bien conscience, mais la coïncidence, l'addition plutôt de l'exode d'une grande partie des jeunes et de la réaugmentation de la mortalité et d'une natalité stagnante, voire déclinante, font que ces pays sont en train de s'effondrer.
Et ça, c'est l'effet effondrement du mur de Berlin, on est d'accord. Et qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact de l'entrée de certains d'entre eux dans l'Union européenne, Bruno Tertrais?
Eh bien, ça n'a pas eu forcément l'effet escompté, à savoir que ça n'a pas conduit à leur normalisation démographique, entre guillemets, au sens européen. Mais d'ailleurs, normalisation, s'il y en avait une au sens européen, ça serait plutôt effectivement celle de la stagnation, puisque l'Europe est un continent vieillissant. Ce qui est peut-être aussi ce qui explique en partie les réactions très vives que l'on a dans ces pays d'Europe centrale face aux vagues migratoires. Il y a peut-être une inquiétude démographique qu'on voit très clairement en Hongrie, par exemple, puisqu'elle est portée à très haut niveau politique. Mais l'Europe fait partie des continents vieillissants. Elle n'est pas le seul. La Russie vieillit vieillit. La Chine commence à vieillir. Hein. Il y a 30 ans, on s'inquiétait de l'augmentation, soi-disant, trop rapide du nombre de Chinois. Ben, les Chinois vont avoir un vrai problème de force de travail. Le Japon est déclinant depuis longtemps. Finalement, dans les grands pays, les deux seuls qui s'en sortent à peu près bien au sens d'une certaine bonne santé démographique, ni trop jeune, ni trop vieux, ni trop rapide, ni trop lent, ce sont l'Inde et les États-Unis.
Les États-Unis, alors pour moi, ça a été la grande surprise de cette étude, Gilles Pison. Contrairement à l'Europe, enfin voilà, les pays du Nord, on pouvait penser que, étant entré dans un certain confort matériel, eh bien voilà, tout le monde allait peu ou prou connaître les mêmes choses, vieillissement de la population, déclin démographique. Ça n'est pas le cas pour les États-Unis.
Alors, si on suit les évolutions récentes, l'indicateur de fécondité aux États-Unis a chuté de 15% au cours des 10 dernières années. Les femmes mettaient au monde 2,08 enfants en moyenne chacune en 2008. Et le dernier chiffre publié par le CDC, qui un petit peu comptabilise les naissances et les décès, donne pour l'année 2017 un chiffre provisoire autour de 1,76 enfants par femme. Une chute bien plus élevé que ce qu'on a observé dans beaucoup d'autres pays développés. Donc attention, les choses bougent. La fécondité a baissé très fortement et très rapidement ces dernières années aux États-Unis. Alors, qui finalement se rapproche de l'Europe de ce point de vue, parce qu'en Europe, à 28, la moyenne de fécondité est de 1,6 enfants. Alors c'est une moyenne et je trouve que c'est intéressant pour revenir au sujet.
Ce qui ne permet pas le renouvellement qui se fait à deux.
Mais pour l'instant, la population de l'Union européenne continue d'augmenter très légèrement. Alors il y a à peu près autant de naissances que de décès. Il y a un solde migratoire positif, il y a plus d'immigration, donc la population continue d'augmenter. Ce qui est intéressant pour revenir à ces pays d'Europe centrale et de l'Est, c'est de s'intéresser à une carte de fond, la carte qui montre les variations de la taille des familles en Europe. Et elle varie presque de 1 à 2 entre le nord et le sud de l'Europe. Il y a un gradient nord-ouest-sud-est. Si vous trouvez au nord et au nord-ouest de l'Europe les pays où les femmes ont le plus d'enfants, entre 1,8 et 2 enfants en moyenne chacune. Et vous trouvez au sud et au sud-est, mais sud y compris tous les pays méditerranéens de l'Union européenne, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, des niveaux de fécondité en dessous de 1 enfant et demi. Alors l'Allemagne, qui était plutôt dans le groupe des pays peu féconds d'Europe, a vu sa fécondité remonter ces dernières années. On trouve dans les pays peu féconds, donc en plus les pays méditerranéens que j'ai cités, les pays d'Europe centrale et de l'Est. Et alors, comment expliquer cette carte? Pendant longtemps, on a pensé que les pays où les femmes avaient le plus d'enfants, c'était celles où elles restaient à la maison, elles ne travaillaient pas. C'est exactement l'inverse. On sait que c'est dans les pays où les femmes sont les plus actives qu'elles ont le plus d'enfants. Mais ça va aussi avec des sociétés, des États où on favorise la conciliation entre travail et famille. C'est des pays où les femmes peuvent à la fois travailler et avoir des enfants. Parce que aujourd'hui, c'est vrai en Europe, c'est vrai dans la plupart des pays du monde, les femmes souhaitent à la fois avoir des enfants et aussi travailler. Et le statut de femme à la maison, ce n'est pas du tout enviable. Et donc, c'est dans les pays d'Europe où c'est pas le plus facile, mais où l'État aide pour ceci, que les femmes ont le plus d'enfants. Et c'est dans les pays où c'est le plus difficile de marier les deux, et du coup, les femmes choisissent de reporter les naissances, de se marier plus tard, plutôt que de sacrifier une carrière, des études. C'est ça qui explique les faibles niveaux de fécondité et la démographie, parfois en diminution, des pays d'Europe centrale et de l'Est. C'est qu'il y a un problème de statut des femmes, il y a leur difficulté à se réaliser à la fois comme mère et aussi comme individu qui souhaite travailler, être autonome.
Y compris l'Allemagne, finalement, Gilles Pison.
Alors, l'Allemagne évolue rapidement. Il y a un pays d'abord qui récemment a fait beaucoup d'efforts pour offrir des aides, des allocations, un soutien aux familles qui aussi modifie tout tout un tas d'horaires, de systèmes. Et donc, ces dernières années, le taux de fécondité a remonté en Allemagne. Donc, il y a un mouvement de convergence actuellement en Europe, après un mouvement de divergence où on voyait ces écarts entre pays s'accroître du point de vue de la taille des familles.
Je voudrais ajouter un tout petit mot sur les États-Unis. J'ai pu rappeler effectivement qu'il y a peut-être une sorte de normalisation de ce qui était une exception américaine. Les Américains faisaient plus d'enfants que les Européens ou les autres occidentaux. Mais il y a quand même un autre facteur qui joue, c'est le fait que ça reste un pays ouvert à l'immigration, en tout cas davantage que bien d'autres pays occidentaux. Donc, s'il y a cette normalisation du taux de fécondité américain, c'est peut-être la variable migratoire qui va déterminer l'avenir de la population américaine. Quand même, il faut quand même le rappeler, c'est une des principales puissances au monde sur le plan démographique, avec une force de travail qui se renouvelle constamment. Alors, s'il y a cette baisse tendancielle de la fécondité, sera-t-elle ou non compensée par la poursuite de l'immigration? C'est ça qui déterminera l'avenir de la puissance américaine, en tout cas au sens démographique.
Et les décisions que Donald Trump aura ou non envie de prendre à cet égard. Alors, on parle beaucoup de vieillissement des populations. On va parler des jeunes. Je parle sous votre contrôle, mais 1,8 milliard de jeunes aujourd'hui dans le monde. Cette classe d'âge n'a jamais été aussi nombreuse dans l'histoire de l'humanité. Quel impact sur le fonctionnement du monde, sur la géopolitique mondiale, Bruno Tartrain?
Alors, d'abord, rappelons quand même que l'humanité est plutôt, comme le disait un commentateur il y a quelques années, entrée dans l'âge adulte. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est le vieillissement du monde. Mais c'est un paradoxe apparent, vous le rappeliez à l'instant, du fait de l'augmentation de la population mondiale, le nombre de jeunes est effectivement particulièrement important. Bon, ce qui compte en démographie, et là encore, je me réfère aux travaux de M. Pison, entre autres, c'est plutôt la forme de la pyramide des âges. C'est-à-dire, c'est pas le nombre de jeunes, c'est dans une société donnée quels sont les équilibres entre les seniors, les jeunes, les adultes, les enfants, etc. Bon, alors, moi, il y a un phénomène qu'en tant qu'analyste politique, je connais effectivement assez bien, c'est l'impact de la forme de certaines pyramides des âges sur la violence politique. Il est vrai que, pour des raisons complexes, mais qui peuvent s'expliquer, dans beaucoup de sociétés en développement, dès lors qu'il y a une proportion très forte de jeunes, surtout d'une classe d'âge 15 à 24 ou 25 ans, par rapport au total de la population adulte, quand il y a cette espèce de ce que certains ont appelé les poussées de jeunes, eh bien, il y a une très forte corrélation avec la propension de cette société à la violence politique. Et notamment, on constate que beaucoup de conflits internes ou de guerres civiles, notamment en Afrique, parce que c'est là que ça se passe essentiellement, ce sont des pays qui, effectivement, ont des classes d'âge jeunes très importantes par rapport au reste de la population. Voilà. C'est pas de la mécanique, mais en tout cas, la corrélation est très forte. C'est certainement un lien de causalité qu'on peut expliquer de plusieurs manières. Et donc, quand vous avez encore ces pays, voilà, qui sont dans cette phase de transition, c'est une phase de transition qui peut être belligène. Et je crois qu'on peut en partie expliquer la prévalence des conflits internes et des guerres civiles en Afrique subsaharienne, en partie seulement, je le répète, mais par ces structures démographiques très particulières.
Et les printemps arabes?
Alors les printemps arabes, bon, ils peuvent être expliqués aussi par la modernisation des sociétés et par l'accès d'un certain nombre de jeunes à des niveaux d'éducation et de revendications politiques qu'ils n'avaient pas avant. La démographie doit être toujours prise en compte, ça ne veut pas dire qu'elle explique tout toute seule. Mais les évolutions démographiques du monde arabe permettent de comprendre certaines dynamiques sociétales qui ont abouti aux printemps arabes.
Pour conclure, je vous propose ce faisceau de questions sur l'avenir. Hein. Quelles sont les interrogations concernant l'avenir? Explosion, implosion, équilibre? La fécondité peut-elle remonter dans les pays où elle est très basse? C'est aussi une question. Mais surtout, notre planète pourra-t-elle nourrir 10, 12 milliards d'habitants? Alors 10, 12, d'ailleurs, on voit bien qu'il y a un différentiel prévisionnel de 2 milliards, ce qui n'est pas rien à l'échelle planétaire. Gilles Pison, Bruno Tertrais.
Alors, pour ce qui est de l'annonce des chiffres en 2100, ça pourrait très bien être moins de 10 ou ça pourrait très bien être plus de 12. À l'horizon 2100, c'est donc dans un peu plus de 80 ans. C'est vrai que c'est difficile de donner des chiffres très précis. À l'horizon 2050, donc les projections moyennes des Nations Unies annoncent 10 milliards. Là, c'est plus solide. Plus de la moitié des humains qui vivront en 2050, 2050, c'est dans 32 ans, ils sont déjà nés. On connaît leur nombre. On connaît parmi les 7 milliards et demi qui vivent aujourd'hui la proportion qui probablement ne sera plus en vie en 2050. Et alors, il y a le troisième paramètre, c'est les nouveaux-nés qui viendront se rajouter. Et là aussi, on peut estimer leur nombre sans trop se tromper, si vous voulez, parce que la plupart des femmes qui mettront au monde des enfants d'ici 2050, elles sont déjà nées, on connaît leur nombre. Donc, à l'horizon 2050, les chiffres, alors ça peut être 9, ça peut être 10, ça peut être 11 milliards, hein, là aussi il y a une incertitude. À l'horizon 2100, c'est plus incertain. Mais le scénario privilégié par les démographes, c'est on va vers une stabilisation de la population ou un reliquat de croissance démographique lié principalement au dynamisme démographique de l'Afrique. Donc ça, c'est pas remis en question. Mmh. Alors, pour ce qui est de la remontée de la fécondité dans les pays où elle est très basse, faut voir, hein, mais on observe déjà, et on citait l'exemple de l'Allemagne, une remontée ces dernières années, peut-être un effet des politiques familiales. Les pays comme le Japon, comme la Corée du Sud et aussi la Chine, maintenant, qui ont des taux de fécondité relativement faibles et qui s'inquiètent du vieillissement démographique rapide de leur population, ont des politiques familiales, des politiques de population. D'ailleurs, ils viennent s'inspirer des politiques mises en place en Europe, notamment en France. On a à l'INED des ministres, des délégations de Corée qui viennent pour connaître les recettes pour avoir un taux de natalité autour de 2 enfants par femme. Alors, c'est pas pour autant que la fécondité va augmenter. Un taux de natalité, un taux de fécondité, ils se décident pas en Conseil des ministres.
Bruno Tartret.
Vous avez posé la question des ressources. En gros, est-ce que la Terre peut nourrir, peut permettre à 10, 12, peut-être plus milliards d'humains de vivre confortablement? Alors, ça, c'est une inquiétude récurrente depuis l'Antiquité. La question « sommes-nous trop nombreux ?», on a commencé à la poser littéralement à l'Antiquité. On pourrait avoir la cruauté de ressortir un certain nombre de prévisions faites par des auteurs dans les années 60 et 70 qui vous disaient qu'il est absolument impossible que l'humanité puisse survivre à une population mondiale de l'ordre de celle qu'on a aujourd'hui. Non, la réalité, c'est que là, moi, je suis résolument un optimiste. La question des ressources, et surtout, parlons seulement des ressources alimentaires et hydriques, est un faux problème. Déjà, si l'on commençait par améliorer l'état des infrastructures de transport, de l'alimentation et de l'eau. Vous avez parlé d'électricité tout à l'heure en Afrique, mais en Afrique, quasiment 50% de la ressource alimentaire est gâchée entre la production et la consommation finale. Quand on parle des infrastructures, c'est les routes, c'est le train, c'est la réfrigération.
C'est les tuyaux pour transporter l'eau.
C'est les tuyaux pour transporter l'eau qui sont en extrêmement mauvais état. Simplement, en améliorant l'existant sans développer d'infrastructures nouvelles, on arriverait déjà à augmenter considérablement la ressource disponible. C'est la même chose à peu près pour toutes les ressources. Ces inquiétudes permanentes ont toujours été démenties par les faits. Et je crois que, alors après ça, on peut avoir des débats sur le fait de savoir s'il faut avoir recours aux organismes génétiquement modifiés ou pas. Bon, ça, on a le droit d'être pour ou contre les OGM, mais même sans recours aux OGM, il y a des gisements, entre guillemets, de terres arables. On s'inquiète à juste titre de l'épuisement des sols dans certaines régions, notamment en Chine, par exemple, c'est vrai, mais il y a en même temps des gisements de terres arables non exploitées en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et dans une partie de l'Europe de l'Est qui peuvent tout à fait aussi être mis à profit pour être certain que 12 milliards de personnes pourront manger à leur faim en l'an 2100. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut quand même rappeler que la famine, au sens strict du terme, a quasiment disparu, parce que quand les famines existent aujourd'hui, c'est à cause des guerres. Les famines sont créées par l'homme. Donc, cessons d'être systématiques pessimiste sur ce sujet, parce que le pessimisme a été démenti par les faits dans les 30 dernières années.
J'ai besoin d'une seconde, vous partagez ?
Oui, et je dirais qu'on n'échappera pas à un surcroît de croissance de 2 à 3 milliards d'habitants d'ici 2050, en raison de l'inertie démographique que nul ne peut empêcher. Il est possible d'agir en revanche sur les modes de vie, et ceci tout de suite, sans attendre. Donc l'urgence, si vous voulez, la vraie question, c'est celle dont dépend la survie de l'espèce humaine, à terme, c'est pas le nombre des humains, mais c'est la façon dont ils vivent.
Celle du mode de vie. Merci, c'est avec cela que nous terminons cette émission. Merci à nos invités, Gilles Pison, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, chercheur associé à l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, rédacteur en chef de Population et Société et auteur d'un atlas de la population mondiale paru aux éditions Autrement, et Bruno Tertret, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur d'une étude intitulée « Le défi démographique ». démographique, mythes et réalités publié par l'Institut Montaigne. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, nous parlerons des accords d'Oslo signés il y a 25 ans et qui ont marqué une reconnaissance mutuelle de l'OLP et d'Israël. Nous verrons ce